Cette semaine, à la vie en BD, les élus Eljun, le premier manga 100% québécois. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Évidemment, un plaisir de vous retrouver à nouveau cette semaine pour parler bande dessinée, pour parler 9e art. Et cette semaine, on va en parler dans deux axes relativement différents. En deuxième moitié, on a donné carte blanche à Marco Duchesne, un de nos collaborateurs réguliers, un de nos amis libraires, qui va nous amener sur le terrain de la nostalgie et de l'apprentissage, un peu dans le rayon de ces rééditions d'albums et des rééditions augmentées avec notes, informations et le reste, bref, qui nous permettent de creuser un peu plus avant autour d'un univers lié à la bande dessinée. Alors ça, ce sera en deuxième moitié. Marco, comme d'habitude, a toujours des belles idées, des belles suggestions pour nous. En première moitié d'émission, on le dit d'entrée de jeu, dans le fond, on va aller à la rencontre de Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté autour des élus Eljun. Donc, un manga fait au Québec, mais qui respecte les codes du manga et tous les codes, essentiellement, dans le fond, là, incluant l'ordre de lecture, qui est quand même quelque chose d'assez capital. Alors, un beau défi qu'on choisit de relever les deux auteurs qu'on connaissait surtout pour la série U Merlin. Alors, on va plonger avec eux dans l'histoire justement de ces élus Eljun, mais beaucoup sur l'angle justement de l'appropriation des codes et du défi associé justement à l'adaptation d'un style, d'une approche plus rattachée au comic book ou à la bande dessinée franco-belge vers les codes et les défis associés au manga. Alors voilà, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Vous avez peut-être vu passer, il y a déjà quelques temps, puisque le premier tome est sur les étaux des libraires depuis plusieurs mois déjà. Le deuxième, lui, est arrivé il y a quelques mois déjà. Les élus Eljun, le premier manga 100% québécois du côté des éditions Michel Quintin. Donc, une série qui a été mise en place par Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté, respectivement scénariste et dessinateur. En fait, inversement, scénariste et dessinateur. Ils sont avec nous aujourd'hui à La Vie en BD. Bonjour à vous deux.
Allô, allô!
Bonjour! Très content
Alors,
d'être
en
ici.
fait, les a partagés. Et premier manga québécois, en fait, on vous avait connu évidemment pour votre série U Merlin, où on était un peu, j'aurais envie de dire, un peu dans l'esprit du comics américain, dans la bande dessinée jeunesse, avec un style visuel X. Et là, on vous retrouve avec une nouvelle série, Les élus Eljun, dans un style visuel Y. Donc, vraiment plus manga. Une idée qui était venue de ce que je comprends au départ de l'éditeur, qui a vu un peu l'intérêt que le public avait pour ce format de bande dessinée-là.
Oui, c'est exactement ça. C'était vraiment dans un salon du livre à Montréal, les éditions Michel Quintin ont vraiment dit, OK, je pense que ça leur trottait dans la tête depuis quelques années. Puis ils regardaient, ah, qui pouvait faire ça? C'est là qu'ils nous ont approchés, Sacha et moi, dans un souper d'éditeurs et qu'ils nous ont demandé, hey, les gars, ça vous tente-tu de faire du manga? Puis c'est sûr que là, on s'est regardé une seconde, ah, ouais, tu sais, nous, même si on était dans le comic book américain un peu plus avec Merlin, ben, tu sais, du manga. On en lit, on écoute beaucoup d'animés. C'était vraiment dans un univers. Et même pour le fun, là, je vais lancer la balle à Sacha. Depuis la pandémie, qu'est-ce que tu faisais, Sacha?
Moi, je me suis cherché pendant la pandémie, comme tout le monde, hein, fallait trouver, remplir un vide sans l'éternuer dessus. Je me suis dit, hey, je vais dessiner du manga pour le fun. La dernière fois que j'avais dessiné du manga, c'était en secondaire 1 ou 3, là. C'était dans le temps de Dragon Ball. Donc, ça datait. J'ai eu ma passe où ce que tout le monde, on parlait de manga, puis on dessinait du manga. Puis, j'ai mis une fin à ça, puis j'ai vraiment embarqué dans le comic book américain pendant longtemps. Et Là, pour le fun, je me dis, ah, ça serait intéressant d'en acheter plus, d'en découvrir plus. Puis en même temps, comme que faut que je dessine, j'ai pas le choix, ben, je vais en lire puis je vais en dessiner. Avec zéro attente, là, tu sais, je commence à en consommer. OK, j'en lis, j'en dessine. C'est dégueulasse ce que je dessine parce que je pars avec presque aucun background là-dedans.
Un
Tout
comic book
mon.
américain, là,
Ben, j'ai
fallait
mon
que
comic
tu
book
évolues, là.
américain background, mais mettons comment comprendre les yeux, comment comprendre quand est-ce qu'on met de l'arrière-plan, pas d'arrière-plan, les trames de gris, tout ça, j'étais néophyte là-dessus. Puis là, dans quelques mois après, de dire, hey, tu veux-tu faire du manga? Fait que là, j'étais comme, ah, c'est parce que vous avez vu mon Instagram, j'ai commencé à en mettre de plus en plus. Puis là, vous avez fait, ah, oh, ce gars-là, il veut faire du manga. Puis il était comme, ah, oh, non, on ne savait pas. Fait que là, j'ai comme, OK, c'était purement parce que ils ont vu ce qu'on est capable de faire. Ils aiment notre duo, ils savent qu'on est travaillant puis qu'on est des passionnés aussi. Mais quel addon que c'est ça que je suis en train de développer, puis on m'offre le projet. Puis moi, je dis souvent au monde qui veulent faire de la bande dessinée, ah, c'est quoi tu me conseilles? Mais je dis, ben, dessine une bande dessinée. Tu vas jamais apprendre autant qu'en en faisant une au complet, même si elle se ramasse pas dans des rayons de magasin, ça reste juste ton ordinateur, ou sur ta tablette, sur tes papiers. Écoute, tu vas passer à travers tous les défis que tu peux pas imaginer tant que t'es pas rendu là. Puis là, on me donne l'opportunité d'en faire un. Ben là, c'est là que je vais apprendre comment en faire. C'est sûr que plus 200 pages par manga, tu fais tout, là.
Oui, puis en fait, j'imagine que c'est un bon add-on parce que comme tu étais déjà là-dedans en quelques mois, puis je pense que les gens, des fois, quand on réinvente ou on se met dans une situation où on doit réinventer puis amener ailleurs notre style, bien, ça reste dans ma tête, à tout le moins, comme pas dessinateur, mais un bon entraînement qu'on doit faire parce que tu as des tics, tu as des approches, tu as des réflexes. Il faut que tu ailles contre ces réflexes-là tranquillement pour t'en bâtir des nouveaux. Donc oui, tu as un 200 pages, mais j'ai l'impression que les 50 premières doivent être un peu plus rough, là.
Tout à fait. Le monde volume 2, il est beaucoup mieux maîtrisé que le volume 1, puis je m'attends à ce que le 3 soit encore mieux parce que je vois je vais dire les speed bumps où ce que je fais comme, ah, ça, je n'étais pas sûr, mais on a quand même un échéancier assez court. Donc, je peux pas trop m'attarder non plus à comment que je vais faire ça? Attends, je vais prendre 2, 3 semaines pour développer. Ben, non, non. Si je fais 2, 3 semaines là, c'est parce que j'ai 2, 3 semaines de pages que j'aurai pas fini à la fin. Fait que faut que tu travailles quasiment le réflexe plus que l'analyse, là, dans le fond, là.
Puis un des défis que on avait, mais c'est surtout Sacha, c'est faut dans sa tête, faut raconter l'histoire de droite à gauche, parce que le manga, un des codes là, nous, on voulait respecter, c'est le sens de la lecture qui est inversé du sens habituel, donc de droite à gauche. Puis moi, à l'écrire, c'est pas si pire. Moi, c'est case 1, case 2, case 3. J'écris un scénario, mais Sacha, faut qu'il raconte l'histoire dans l'autre sens. Donc, les personnages sont plus à la même place. Les bulles vont pas être à la même place. Donc, c'est vraiment un travail de cerveau où là, on a des défis avec, si on veut, tu sais, on a Humerlin en parallèle. Donc là, Sacha, il a son cerveau, là, maintenant, il est comme orienté manga. Si on retourne éventuellement à Humerlin, là c'est des défis. Mais OK, là, il faut que je retourne à avant. Est-ce qu'on peut-tu faire les deux en parallèle? Pas évident. Donc là, on a
Ouais.
aussi des défis à ce niveau-là.
Il y
Mais
a
non,
un
c'est un
défi
bon
de
point sur
format.
l'architecture des planches, effectivement. Mais en fait, avant de tomber au format, je pense que juste, justement, comment tu réussis à réorienter, à faire tes réflexes pour être sûr que. Parce que, dans le fond, l'heure de lecture, on aurait pu se dire, bon, OK, on respecte juste le format qui est déjà en soi un petit quelque chose de plus, la couleur, le type de graphisme, mais vous y êtes allé à fond en disant, mais on va faire l'heure de lecture aussi. Puis ça, c'est un bon point dans ma tête où. Juste la construction des planches et le réflexe et l'importance de la fluidité de lecture, c'est tellement capital que les gens puissent se retrouver là-dedans. Déjà que pour nous, vieux, ben, de tomber avec la lecture inversée, ce n'est pas nécessairement un réflexe naturel. Par contre, pour ceux qui en lisent beaucoup, ben, eux autres, ils y connaissent déjà. Donc, à la limite, vous adressez à un lectorat qui potentiellement va déjà avoir lu du manga, va déjà connaître ces codes-là, va déjà avoir une habitude et va peut-être être tiqué si la fluidité de lecture n'est pas au rendez-vous, dans le fond.
Alors, moi, j'ai fait la même approche que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'est que j'avais mes références à côté de moi, puis j'analysais, OK, comme ça qu'il fait. Quand j'ai commencé à dessiner avant le manga, mettons, j'avais un Spider-Man à côté de moi, OK, il fait ça comme ça. J'avais du X-Men de Jim Lee, ah, il place ses cases de même, il place ses cases de même. Puis, sans tracer ses cases, mais juste comprendre. OK, pourquoi que cette case-là est surélevée versus celle-là? OK, c'est pour la direction de la lecture. Pourquoi que celle-là est entrecoupée, mais pas celle-là? Puis j'essaie d'analyser. Bien, je suis retourné aux sources, mais j'ai juste remplacé ma référence par le matériel de manga. Puis ça l'a aidé aussi énormément que justement, je commençais à baigner là-dedans, j'en achetais, j'en lisais, puis tout. Fait que là, c'était pas comme J'ai pas pris un manga pour la première fois, puis là, j'essaie de le lire puis m'habituer. J'étais déjà habitué avec le sens de lecture puis tout. Fait que ça l'a aidé énormément à. Puis, j'ai plusieurs années d'expérience, fait que maintenant, j'apprends plus vite, je sais quoi
Ouais.
regarder pour analyser. Fait que la transition a été plus facile maintenant que quand j'étais jeune, puis j'apprenais de zéro, là, dans le fond.
Puis sur le format des pages, ben encore là, on la remplit pas de la même façon. C'est plus petit, c'est plus réduit, c'est.
C'est ça. Souvent, tu sais, quand on va dessiner une page de BD, surtout ceux qui dessinent à la mitaine, on est habitué à dessiner pour plus grand, puis que ça va être réduit après. Mais là, je fais toujours ça, même digitalement, mais le format imprimé est tellement petit que, tu sais, on dit tout le temps, mais attends-toi pas trop à des détails parce qu'une fois imprimé, tu vas pas les voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai plusieurs écrans d'ordinateur. Donc, je me suis mis un écran avec, dans les programmes de dessin, souvent, là, tu as une petite fenêtre de navigation que tu rouvres, puis là, tu peux voir t'es zoomé où sur la page. Alors, moi, j'ai pris cette fenêtre-là, je l'ai agrandie au format imprimé du manga que j'ai mis sur un autre écran d'ordinateur. Donc, j'ai tout le temps un œil, un regard sur le format imprimé. Fait que je vois les détails jusqu'à quel point qu'ils se ramassent ou pas. Puis que ça m'a aidé à, OK, je peux diminuer le nombre de détails avec l'arrière-plan puis le personnage parce que je le sais qu'on les voit pas bien de toute façon imprimés. Fait que c'est comme ce petit truc-là qui m'a aidé à m'ajuster au format, là.
Et j'ai l'impression que sur le côté de dessin, donc il y a beaucoup de nouvelles contraintes, de nouveaux apprentissages. Et sur le côté scénario, ben là, oups, on se retrouve avec un terrain de jeu décuplé. Là, je regardais Humerlin, on parle à peu près quoi, 100 planches qui sont à faire. Là, subitement, avec les élus, c'est comme 200 pages par tome. C'est sûr qu'on a peut-être un peu moins de cases parce que, comme on vient de le dire, le format est peut-être un peu plus compact. Mais reste que j'imagine que pour faire respirer, pour faire des séquences d'action, là, subitement, le scénariste, lui, il y a plus d'espace, là.
Oui, c'est vraiment, c'est super le fun. C'est vrai que c'est différent. C'est sûr que moi, mes différences sont plus simples peut-être que Sacha parce que moi, c'est de la composition. Il n'y a pas de dessin, donc là, je peux raconter l'histoire. Mais c'est vrai que il y a un dynamisme dans ce qu'on a fait. Nous, on fait un shonen qui est très classique, Naruto, One Piece. Donc, beaucoup d'action. Donc, c'est plaisant à écrire. C'est plaisant aussi, je pense, à dessiner, mais justement, ça nous permet de respirer. Là aussi, j'ai deux fois le nombre de pages à peu près pour raconter une histoire. Donc là, ça me permet aussi de, OK, bon, ben, allons-y dans la scène d'action, allons-y plus des moments plus serrés. Mais il y a aussi des codes manga qu'il faut amener. Puis ça, c'est avec. Nous, on a l'avantage de travailler à deux. Fait qu'on discute beaucoup, beaucoup, beaucoup de autant des trucs visuels que des trucs de scénario. Puis, entre autres, les choses que moi, j'ai dû m'améliorer, c'est souvent dans le manga, il y a une espèce d'intériorité qui est un peu différente de ce qu'on connaît là, en Occident. Exemple, ça va être. Puis, Sacha qui me faisait là, le commentaire, puis je me suis adapté. C'est, tu sais, des fois, ça va être genre un arbre, puis il va y avoir des bulles dans l'arbre. C'est plus beau. Puis, les bulles, on comprend c'est qui parle, mais sans montrer les personnages. Donc, il y a eu aussi des réflexions à ce niveau-là. Puis si on revient dans les codes, ça, c'est. On a eu aussi beaucoup de plaisir parce que là, il a fallu apprendre. Fait qu'on en a, parce qu'on en connaît, tu sais, il y a des codes génériques, on se pense à un manga, on réfléchit, OK, noir et blanc, les yeux et tout ça. Mais après ça, quand tu regardes, puis là, on en a lu vraiment beaucoup, là, on en lisait beaucoup, là, mais de plein de séries différentes. Puis là, on les compare. Exemple, il y a des façons, exemple, tu sais, dans le manga, il y a des. On appelle ça des chibis, là. On est dans une scène sérieuse, puis il y a comme un gag qui sort de nulle part avec des personnages devenus très cartoon, qui vont faire un genre de commentaire un peu ridicule. Puis là, ça, c'était. Puis là, il a fallu. OK, nous, en plus, on aime ça, ce genre d'humour-là. Fait qu'il a fallu en regarder plein, voir comment ça se faisait, convaincre la maison d'édition. Eux autres ne sont pas habitués non plus. Il y a eu aussi des réflexions, là. Et ça vient d'où? Pourquoi ça brise le rythme? Nos lecteurs ne comprendront rien. Tu sais, il a fait, non, non, regarde, c'est ça un manga aussi, là.
Oui, puis en fait, pour l'exemple précis, sans tomber dans le tome 2, là, parce qu'on veut que les gens commencent au tome 1, évidemment, mais toute l'histoire du mouton au début qui saute, qui revole, ben, subitement, ça vous fait un personnage ou un artifice, dans le fond, que vous pouvez utiliser pour générer cet humour-là décalé. Puis à la fois, dans le fond, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le manga puis qui vous suivent, vous, ou qui se disent, ah, je veux lire ça parce que c'est un manga québécois, dans le fond, ben, on découvre tranquillement ces codes-là aussi. Puis pour ceux, ben, qui vont prendre le livre parce qu'il est dans la section manga puis que ça les intéresse, au bout du compte, ben, eux ne seront pas décontenancés parce qu'ils s'attendent à ça. Et au contraire, ils seraient décontenancés si ce n'était pas là. À l'inverse, parce qu'on revient à ce qu'on disait tantôt, vous vous adressez en partie à un lectorat qui maîtrise, qui connaît, qui apprécie les codes associés à ce médium-là.
C'est surprenant, c'est vraiment surprenant là, quand on. même, tu sais, le manga allait sortir, fait qu'on commençait à en parler dans les salons puis les événements. Puis, tu sais, ceux qui est trip manga, c'est la première chose qu'ils nous disaient, là, c'est, il se les tue de droite à gauche, là. Tu sais, puis si c'est pas ça, là, c'est pas un
Je
manga,
le
ton
prends pas
affaire,
d'un
là.
rack, là. Puis
C'est
tu fais
ça,
comme
là. Fait que,
OK, c'est.
inquiète-toi pas, nous, on voulait aussi un manga, le fort, tout a été calculé parce qu'on voulait, c'est ça qu'on voulait donner aussi aux gens, là.
C'est très spécial de créer un produit pour deux publics vraiment différents, là. Autant le monde qui savent pas c'est quoi, puis autant le monde qui sont fans, puis on va aller chercher les deux. Fait que, tu sais, on va avoir des commentaires de ah, c'est mon premier manga que j'ai jamais lu, puis on va avoir de OK, je l'aime comme parmi les autres. Fait que là, OK, il faut aller chercher ces deux groupes-là, là. Chose qu'on n'avait pas la même sentiment avec Humerlin. Tu sais, Humerlin, c'était une sorte de BD qui est comme le comic book américain, mais tu sais, le monde l'achetait s'il aimait la bande dessinée. Tu sais, c'était vraiment, c'est ma première BD ever, là. Peut-être les jeunes lecteurs, là, mais.
Sur un public jeune, ce qui est c'est vraiment c'est spécial, là. Tu vois, mettons, on parle de fin primaire, début secondaire, là. On parle pas nécessairement des fans de. Tu sais, ils vont. Si c'est un manga, ils regardent même pas Humerlin. Tu sais, c'est comme vraiment, ah, OK, il y
Puis
a de la couleur, je ne
vice-versa.
regarde pas ça. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Ah, moi, je ne lis pas ça du manga, mais Humerlin, ça m'intéresse. Fait que c'est vraiment spécial, là, vraiment. Puis il y a aussi c'est comme deux cercles de veines, là, tu sais, le diagramme de veines,
Oh.
là.
Ouais, puis t'as ça dans
Mais
le
c'est
milieu.
surprenant, là. Ouais.
Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose, si vous êtes, on dit c'est le premier, mais potentiellement que ça ne sera pas le dernier non plus, parce que le médium est tellement populaire, attire, et éventuellement, dans le fond, les jeunes lecteurs, puis les jeunes auteurs, en fait, sont de plus en plus. C'est nous, on l'est, mais sans nécessairement y avoir pensé. Je veux dire, Astro, on a tous grandi avec ça,
Ah
du moins,
oui,
on est à peu près
ben
dans les
oui.
mêmes âges, mais
Oui.
dans ma tête, ça n'a jamais été un manga. Ça a pris du temps avant que je fasse le rapprochement. C'était des dessins animés, puis c'est ça. Mais les références des jeunes aujourd'hui qui vont devenir les auteurs demain vont être aussi beaucoup vers l'Asie et pas seulement vers les États-Unis puis l'Europe. Donc, nécessairement, on peut imaginer que ce type d'expérience-là, il va en avoir d'autres et que tranquillement, l'approche manga va être considérée comme un médium à l'égal de OK, je vais le développer en comic book, OK, je vais le développer en franco-belge ou dans l'approche roman graphique aussi, selon dans la gamme, dans le fond, de médium que la BD peut prendre.
C'est une des raisons aussi. Tu sais, quand on nous a offert le projet de faire un manga, ben un, on coche une liste sur notre bucket list de faire quelque chose qu'on a toujours rêvé, mais on rouvre des portes. Puis, comme tu dis, j'étais jeune, je dessinais du manga au secondaire, mais mon plan de faire de la bande dessinée, c'était je ne vais pas déménager au Japon, je ne ferai pas du manga. Donc, c'est pas un rêve atteignable. Mais là, on en a, on en voit déjà des jeunes lecteurs qui sont comme ah ben. Je savais pas que ça se pouvait. Je savais pas qu'on pouvait en faire. Fait que là, je suis comme, ça revient dans, hey, mon rêve, c'est de faire ce type de bande dessinée-là. Au lieu de juste, mettons, même moi, quand j'étais jeune, tu voulais faire de la bande dessinée au Québec, c'était quasiment, va en animation, là, tu sais. Ça va être ça, là. Puis j'ai fait du storyboard en publicité parce que c'est comme un cousin de la bande dessinée, puis c'était plus facile d'y accéder. Fait que là, d'ouvrir des portes pour les jeunes, je trouve que c'est super important, là. Puis je serais surpris si dans les prochaines années, il n'y a pas d'autres maisons d'édition qui en font, là. D'après moi, là, t'sais, ça va commencer ici aussi, là.
Parce que ça, c'est intéressant parce que oui, il y a le point des futurs auteurs. Là, le fait qu'on voit, puis les Elliott Gould, maisons d'édition et tout ça, mais l'inverse est vrai aussi en haut de nous. Donc, les maisons d'édition, là, Michel Quentin, moi, puis Sacha, on ne pensait pas que c'était un gros risque, mais ils ont quand même pris un risque de faire un manga, lecture droite à gauche,
La
noir et
jaquette.
blanc, jaquette, c'est quand même un risque financier. Là, ça va super bien, fait que tout le monde est content. Mais moi, on les a vus, les autres éditeurs. Ah! Fait que c'est sûr que là, nous, ça nous a, c'est parfait. Là, mais Michel Quintin, il veut en faire d'autres mangas. Et puis là, on voit que les autres, fait que nous aussi, ça permet autant d'ouvrir la porte au futur, mais aussi d'en avoir plus au Québec. Ça, c'est génial. On est super content pour ça, là.
Et vous êtes allé, tu l'as dit, tantôt dans le shonen, donc le manga d'aventure, en fait, parce qu'encore là, il y a plein de genres, comme en BD, il y a plein de genres, là, on s'entend, ça reste varié. Et dans le manga d'aventure, on y va avec une esthétique puis une approche associée aux mythologies nordiques, aux mythologies vikings. Mais évidemment, encore là, tu peux pas avoir des dessins réalistes de vikings non plus, il faut que ça soit minimalement stylisé pour respecter l'esprit un peu manga. J'imagine, en fait, un peu comme pour le reste, les Vikings, on baigne là-dedans ces temps-ci. La mythologie nordique est un peu partout. Donc, on s'en inspire. Puis après ça, bien, dans le fond, la question, c'est de voir comment on peut partir de ça puis les adapter au format visuel puis à l'approche visuelle qu'on veut préconiser.
Pour le visuel, c'est drôle parce que quand on a commencé à travailler sur le projet, justement, Jean-François voulait savoir, OK, là, on nous a offert de faire un manga, mais là, il faut arriver avec un projet. Qu'est-ce que ça tente de dessiner? Tu veux-tu encore faire des robots dans l'espace? Moi, je suis comme, ben là, tu
Tu
sais,
m'avirais,
on a fait une coupe, là. Puis, rajouter à 200 pages par volume, ça veut dire beaucoup d'engrenages, puis de choses comme ça. Je dis, OK, on ferait quelque chose d'autre. Pirate, ça pourrait être le fun. Ah, le manga le plus populaire au monde, c'est un manga de pirate. OK, on va peut-être pas faire du pirate. Ninja, c'est intéressant. Le deuxième manga le plus populaire au monde, c'est quand même du ninja. Qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup dans le manga? Puis qu'est-ce que... Moi, je suis en train de jouer à Assassin's Creed Valhalla, God of War. Jean-François est en train de lire des livres sur la mythologie
Nordique.
nordique. Fait que là, on est comme, ben là, on peut faire d'affaires de vikings. Qu'est-ce qu'il y a sur les vikings? Il y a Vinland Saga qui est populaire, mais Vinland Saga, il a son esthétique à lui aussi, beaucoup plus réaliste aussi.
Préhistorique aussi, là.
Et c'est ça, ils n'ont pas de pouvoir. Puis nous, on voulait faire. Mais tu sais, si on fait Naruto avec des vikings, déjà là, on est différent de Vinland Saga, puis ça pourrait être le fun à explorer. Puis comme, OK, on propose de quoi de viking, puis là, tu sais, l'histoire, facilement, on est arrivé, OK, on a l'arbre de la vie, Eldjun, il donne des pouvoirs. Quel genre de pouvoir? Ben, ça pourrait être des pouvoirs sous forme d'animaux totems. Ah, ça, c'est cool, chaque personne pourra avoir son type d'animal qui utilise ses pouvoirs. Puis, OK, oui, tu fais qu'on est capable d'avoir plusieurs élus avec plusieurs pouvoirs. Visuellement, c'est stimulant, c'est le fun. Fait que, tu sais, l'histoire s'écrivait tout seul en quelques lignes de dialogue par téléphone, puis on était comme, OK, mais je pense qu'on a de quoi, on propose ça, puis à date, on a
Puis je
extrêmement
me
plaisir à le
souviens, on était
faire.
au téléphone, j'étais dans l'auto, je conduisais. Puis là, je me souviens, tu m'avais dit, c'est un peu comme, moi, j'aimerais ça qu'ils se téléportent.
Ouais.
Je me souviens de ça. Tu m'avais
Parce qu'on
dit,
voulait neuf mondes. Donc,
ouais, fait que c'était
neuf
facile. Ben
mondes,
oui,
on se
l'arbre de
rend
la vie,
comment?
neuf mondes, on va pouvoir explorer plein d'environnements, plein d'univers. Et voilà que, fait que c'est vraiment de petites graines qu'on sème, là, c'est devenu un univers
Un gros
super
carré de
complet.
sable.
Ouais.
Et dans le contexte du carré de sable, dans le fond, pour l'auditeur qui va tomber sur les élus, dans le fond, il y a un peu trois histoires qui se développent un peu en parallèle, j'ai l'impression, en exagérant un peu, mais il y a le présent de l'histoire comme tel. Il y a des flashbacks qui nous mettent un peu l'avant, qui nous permettent aussi d'en apprendre un peu plus que les personnages sur l'état de situation des lieux. Et à travers ça, bien, il y a toute la construction de monde qui, oui, va se faire à l'intérieur de l'histoire, mais aussi à l'intérieur des changements de chapitre où on va contextualiser. On va se permettre quand même une page de texte sans dessin, juste pour expliquer où on est, c'est quoi les mondes, c'est quoi l'architecture, un peu de tout ça. Donc, j'imagine que ça donne un peu de latitude aussi, la troisième approche, pour pas être pogné, entre guillemets, pour mettre trop d'informations partout à l'intérieur de l'histoire, que ça reste fluide, mais qu'on puisse prendre une pause du dessin, faire un peu de world building, puis après ça, on continue, puis on relance.
Tout à fait. Puis ce qui est le fun avec ces pages de entre les chapitres qui rajoutent de l'information, tu sais, j'avais dit à Jean-François, souvent dans les mangas, j'envoie des pages de même, mais c'est tout le temps de l'information qu'on pourrait retirer puis quand même comprendre l'histoire. Puis des fois, c'est de l'information, là, telle fille, elle mesure 5 pieds 4 et aime les framboises. Puis tu fais comme, hey, c'est utile en crime de savoir ça. Fait que des fois, c'est juste vraiment des petites informations. Des fois, c'est des informations personnelles sur les auteurs. Moi, quand j'ai proposé, puis tout. Mais là, j'étais comme, on a un monde vaste avec beaucoup d'informations. Puis là, on pourrait rajouter des détails, comme tu dis, puis justement, pas alourdir l'histoire en soi. Et on se le fait souvent dit à quel point c'est apprécié par les lecteurs, surtout les lecteurs adultes, ou qui justement, ils essaient de comprendre notre univers, puis tout. Je ne sais pas si le lecteur plus jeune, eux, ils embarquent dans l'histoire, puis c'est comme, moi, je suis ce qu'on me montre. Puis même ma mère, elle lisait, puis elle dit, hey, j'aime bien ça, ces pages-là, parce que je suis comme, ah, OK, c'est ça, tu sais. C'est pas tout le monde non plus qui est familier avec les neuf mondes de la mythologie nordique. Puis là, des fois, on rentre en détail là-dessus, puis tout ça. Fait que c'était une bonne idée. Puis ça, c'était très apprécié par les lecteurs à date, fait que c'est sûr qu'on continue là-dessus, là.
Oui, ben en fait, le lecteur, je te dirais, il en profite aussi pour après ça se dire, OK, on va aller là. S'il en parle, ben, éventuellement, on va y venir. Et ça nous fait sentir aussi ben, que c'est nous, on est rendu au tome 2, mais vous êtes rendu au tome 5 dans l'histoire, dans le mode de création. Puis on revient un peu à ce qu'on discutait aussi à l'époque du Merlin, mais où, dans le fond, il y a le monde que vous avez construit, il y a l'histoire que vous allez bâtir. Puis après ça, il y a comment on développe une architecture entre un peu les deux pour quand même avoir des tomes qui sont raisonnablement viables en termes de contenu, à la fois pour l'histoire, à la fois pour le monde, à la fois pour les jokes puis les anecdotes aussi. Donc, c'est un jeu d'équilibriste au bout du compte de créer une série, là.
Exact. Puis aussi avec les. Tu sais, nous, dans le fond, on a des arcs narratifs. Tu sais, à chaque fois, on a comme un peu nos arcs. On aime ça aussi se laisser un peu de liberté parce que c'est la magie de la création. C'est le fun aussi. Tu sais, il y a des personnages qu'on va particulièrement aimer. OK, ben là, OK, lui, il faut le développer. Là, on l'aime puis on veut le voir plus. Fait qu'on se laisse aussi de la marge de manœuvre. Mais oui, on a un peu nos arcs narratifs. On est des, tu sais, on est des geeks, on aime ça les animés, on aime ça les mangas. Fait que, tu sais, on a tout le temps en tête aussi, ah ben, tu sais, mettons 3 tomes, ça fitterait, puis un chapitre, c'est un peu un épisode de manga, on les fait un peu d'animé, on les fait un peu en conséquence. Fait qu'on se dit, ah, tu sais, une saison, 15 épisodes, 3 tomes. Fait que, tu sais, on s'amuse quand même avec ça. Fait que ça nous permet de nous faire une structure, un petit cadre aussi qu'il faut respecter. Pour justement, OK, il faut que cet arc narratif-là se conclue à ce moment-là. Donc, justement, oui. Puis on sait où on s'en va aussi. Là, on a une bonne idée de notre fin déjà, là. Mais on va se laisser un peu de. Si l'histoire s'en va un petit peu ailleurs, on va la suivre aussi, là.
Oui, puis en se donnant la possibilité, parce que l'histoire donne l'impression au départ dans Thomas qu'on va être dans un récit initiatique, dans le fond, d'un héros qui se découvre. Mais finalement, on comprend rapidement que l'héros se découvre un peu parce que ses pouvoirs sont là, sont latents. Donc, rapidement, vous mettez de côté un peu justement la découverte des pouvoirs, le pouvoir suprême qu'il y a arrive essentiellement à la fin du tome 1, au bout du compte. Donc, ça vous permet aussi de ne pas rester trop longtemps dans un archétype d'histoire, puis après ça, de peut-être un peu nous surprendre en disant, ben, OK, ils ont été un peu plus vite que ce que je pensais, ben oui, ils vont aller après. Puis dans le fond, ça évite d'avoir un récit qui est peut-être un peu plus stéréotypé aussi au final.
Puis on se le fait dire aussi par les fans de manga que, OK, c'est un manga québécois. Donc justement, c'est pas. Oui, c'est influencé extrêmement du shonen puis de ce qu'on est habitué. T'sais, l'amitié, les héros qui deviennent de plus en plus forts, tout ça, oui, mais il y a quand même des affaires que nous, on fait parce qu'en tant que créateur québécois, comment qu'on raconte notre histoire, qui n'est pas nécessairement la coutume là-bas. Juste le fait que, tu sais, on a Revenir, qui est plus comme le tacticien, puis on a Ulfa, qui est son amie, puis elle est plus forte physiquement que Revenir. Puis ça, c'est pas de quoi que tu vois souvent. On se le fait dire, oh, j'étais surpris qu'elle est plus forte que lui, puis qu'on n'est pas habitué. Puis nous, on était comme, ben pourtant, pourquoi pas, tu sais? Puis là, mais c'est parce que justement, c'est pas écrit là-bas, c'est écrit ici. Donc, ça va faire. Puis tant mieux, parce que ça fait qu'on fait vraiment un manga québécois. Puis là, j'imagine que
Original.
les prochains mangas québécois qui vont sortir, ben, tu sais, ils vont être faits uniquement par ici, là, avec
Oui, de pogner nos influences à nous, parce que dans le fond, l'idée, c'est pas de faire un pastiche ou un hommage,
Exact.
c'est de s'approprier des codes pour faire un manga point, mais avec nos sensibilités. Puis je pense même dans les commentaires, j'avais lu à un moment donné quelqu'un qui disait, mais c'est le fun parce que même dans le parler, on reconnaît un peu des. Même si ça reste en français international, c'est pas du joual, mais il y a des tournures de phrases qu'on a ici au Québec, qu'il n'y aura pas
Des
nécessairement en France.
expressions.
Puis il y a certains mangas auxquels on a accès, ben, qui sont traduits en France, donc qui se retrouvent avec des expressions, avec un langage qui est au bout du compte ironiquement plus joual français versus notre français un peu plus international ici, mais c'est fou.
Dans les petites différences qu'on avait, c'est parce que j'ai eu un flash là, tu sais, les bulles, tu sais, au Japon, c'est des beaucoup de traductions, fait que les bulles vont être très verticales, donc pas beaucoup d'espace, fait que les mots vont souvent être coupés. Puis nous, notre éditrice, elle n'aime pas ça, les mots coupés. Fait qu'on essaye souvent, parce que nous, on veut respecter ça aussi, d'être le plus vertical possible dans les bulles. Fait que des fois, on coupe des mots, puis là, non, non, non. Fait que là, tu vas voir, une des différences, c'est ça, entre autres. Ça va être les bulles, puis ça, c'est visuel. Là, les bulles vont être un peu plus
À l'horizon.
ouais, à l'horizontale. On essaie quand même de garder vertical, mais justement pour éviter de couper des mots, là. On en a tout le temps quelques-uns qu'on réussit, là, mais la plupart du temps, là, il faut modifier un petit peu nos bulles, là.
Je me rappelle qu'on s'est fait dire aussi au début, là, quand c'était pour sortir un manga québécois, là, dans les premiers commentaires, c'est « Oh, il va-tu avoir des nids de poules dans toutes les rues? » Puis c'est comme « Ben là, c'est québécois, là,
Mais pas que.
C'est
Puis
ça.
à travers ça, il y a aussi dans le style des personnages, plus si on revient au visuel, ben dans le fond, le casting que tu vas faire, oui, dans le fond, t'sais, ça reste un casting, mais nécessairement, il y a dans les cheveux, dans les postures, dans les expressions. Puis même si on pousse un peu plus loin, votre chasseur d'élus, qui est un des antagonistes potentiellement du récit, là, il y a l'armure qui est complètement stylisée. Là, on a l'impression d'être dans Final Fantasy un peu là-dedans.
Ouais.
On peut s'éclater aussi pour pousser loin des trucs qui, dans un récit peut-être plus comique, seraient passés moins free. si tu me permets le néo-latinisme.
Oui, puis tu sais, moi, j'ai un plaisir fou à faire le concept de tous ces nouveaux personnages-là. Puis même des fois, hein, c'est un peu ce principe-là que j'avais avec les robots dans Humerlin. Des fois, tu as une idée de visuel quand tu crées ton personnage en applique zéro action. Puis là, tu commences à le sketcher dans genre 36 000 actions, poses d'angle. Puis là, tu fais comme, hey, ces épaulettes-là sont compliquées, là. Fait que là, je le change. Mais justement, le design de Rim en armure, visuellement attire beaucoup. Quand j'arrive, mettons, je suis en salon, puis on signe. Nous, ce qu'on a fait, on s'est fait des petites cartes de personnages parce que premier volume, personne connaît. Qui tu veux que je te dessine? Mais je sais pas, je connais pas. Fait que là, en ayant les personnages sur la table, puis là, tu as des personnages avec, tu sais, un look plus viking, tu sais, des capes de poil, des toutes sortes de looks comme ça. Puis tu as elle avec un armor à la Final Fantasy. Puis là, oh, c'est intéressant ça. Puis en même temps, ça fait, tu sais, c'est pas, elle n'a pas le même set de pouvoir que nos élus. Fait que visuellement, c'est important qu'elle vienne d'une autre esthétique. Puis là, on va rentrer plus dans son origine éventuellement, là. Mais beaucoup de plaisir là-dessus, là.
Oui, comme quoi, des fois, un look, eh bien, on remarque qu'on passe à Boba Fett et d'autres, un look déjà
C'est
inspire, mais je veux dire,
exactement ça,
ça crée
ouais.
un charisme parce que son look se démarque et on la remarquerait peut-être moins s'il était tout stylisé comme ça aussi.
Exact, exact. Et puis, il y a des personnages de même que même nous, en le dessinant, oh, on a aimé ça. Puis là, les fans sont comme, hey, je l'aime, ce personnage-là. Puis là, évidemment, ce personnage peut venir prendre plus de place si il y a de l'espace à ça dans notre histoire. C'est sûr que si dans notre tête, ce personnage-là meurt dans 3 pages, mais là, OK, là. Mais il y a ça aussi qui est le fun comme Jean-François disait, de se laisser de l'espace pour ajuster un peu notre scénario vers la réception autant du public que nous en tant que créateurs. Oh, je pensais pas que ce personnage-là était pour on pourrait l'aimer autant, mettons.
Puis j'imagine aussi sur le côté réalisme magique au bout du compte du récit, bien là, on est dans la magie, on est dans la fantaisie. Donc, contrairement peut-être à un Merlin, où oui, il y a un peu de surnaturel là-dedans, mais il y a des assises qui sont très technologiques. Donc, il y a quand même un ancrage, entre guillemets, réaliste qu'il faut qu'ils tiennent. J'imagine que côté règles, on s'en donne aussi, mais elles peuvent être un peu plus lousses où justement on peut aller plus loin dans les pouvoirs, dans le côté fantastique de la chose, donc être moins ancré dans quelque chose qui doit avoir une justification peut-être réaliste à un moment donné, parce qu'il y a de la fantasy, parce qu'il y a de la magie un peu dans cet univers-là.
Il est très manga, là. Ce qui est très manga, tu sais, justement Dragon Ball, là, le fameux, tu sais, quand il devient Super Saiyan, puis là, la bataille, elle dure 8 heures de VHS que tu écoutes. Puis là, c'est juste pendant 20 minutes, pendant 1 heure, il fait juste remplir d'énergie sa boule. Fait que oui, c'est très manga aussi, là, de s'amuser à être un peu. C'est justement sortir du réalisme. Là, oui, puis on suspend notre surréalisme, puis on en profite. Là, t'sais, on vit le moment, on vit l'action, puis on avance.
Ouais, puis dans
Naruto,
les mises en
écoute.
scène de bataille aussi, je veux dire, je regarde un peu même Sacha, t'as dû t'éclater un peu là-dedans où tu dis, OK, là, on fait des pages blanches, des pouvoirs, des trucs,
Oui, puis même des fois, je suis comme, oh, plus, plus, plus. Moi, ouais, mais on a quand même une histoire à raconter, là. OK, là, faut que on s'ajuste, là. Mais je voulais juste revenir, mais tu sais, Naruto, c'est pareil, là. C'est des ninjas, mais ils ont tous les pouvoirs du monde, là. Fait qu'ils peuvent, ils peuvent littéralement faire tout. Fait que c'est ça qui est le fun de pas être limité dans cette. Aussitôt qu'on a mis des pouvoirs d'âmes magiques, d'animaux, tu sais, ils peuvent faire quasiment n'importe quoi, mais à la saveur de leur animal totem, là. Fait que
Oui.
c'est vraiment.
Puis sachant qu'ils vont devenir plus forts, ben éventuellement, ça ne sera pas
Exactement.
redondant non plus pour vous de toujours à peu près dessiner les mêmes séquences, là.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, au côté calendrier, on est un peu sur quoi, pratiquement un album par année?
Oui, tu vois, la première année, on voulait en sortir deux pour justement le ben, parce que les fans de manga, on aime ça régulier aussi. Nous, on n'est pas non plus, on n'a pas de studio, on n'est pas comme dans justement les gros, les shonen classiques, on n'a pas de magazine Shonen Jump, on n'est pas 12, on est juste deux, puis une personne qui dessine. Alors, nous, ça, on va essayer d'en faire un par année. On aimerait ça se rendre à 3 ou 2 ans ou deux par année, mais pas encore, là. Je pense qu'on va tomber à un rythme un peu un par année, là.
Oui, c'est sûr que ça dépend de, tu sais, c'est beaucoup de pages, puis tu sais, il y a les délais d'impression, il y a tout ça, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en compte, puis tant que ça reste la bande dessinée québécoise, hein, fait que tu sais, un succès québécois versus un succès ailleurs, c'est pas les mêmes revenus, fait qu'il faut s'adapter aussi
Ouais.
pour pouvoir laisser le temps de le projet de grandir avant de pouvoir accélérer la cadence, en fait.
Et déjà, on a les deux tomes sur lesquels on peut mettre les yeux. Donc, tome 1, tome 2 disponibles. La série, je le rappelle, ça s'appelle Les Élus Elgin. C'est chez Michel Quintin. Sacha Lefebvre, dessinateur. Jean-François Laliberté, scénariste. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à
Merci à
toi, c'était
toi.
super.
Vraiment cool. Merci beaucoup.
À la vie en BD, on offre sporadiquement des cartes blanches à nos collaborateurs et c'est au tour de Marco Duchesne en ce doux mois de janvier. Marco, bonjour.
Bonsoir, Raymond.
Et Marco, en fait, pour la carte blanche, tu m'as donné un nom poétique pour la tienne. Tu m'as parlé de « entre nostalgie et plaisir d'apprendre ». Et on se reporte un peu en fin d'année 2023. On est encore assez proche pour en parler de toute façon et on est perpétuellement en rattrapage ici à la vie en BD. Donc, avec trois titres dont tu avais envie de nous parler et trois titres dont peut-être, en fait, les gens qui te connaissent ou qui t'écoutent depuis la décennie que tu es avec nous à l'émission vont reconnaître, je pense, aussi tes goûts à travers des albums que tu as redécouverts aussi un peu dans cette période-là. Et c'est un peu comme ça que je chemine vers ton premier titre, Marco, Les bijoux de la Cajetafiore, mais je te laisserai peut-être un peu nous cadrer un peu la chronique avant de te lancer dans les bijoux.
En fait, j'ai fait carrière en bande dessinée en lisant puis en partageant cette passion-là, mais pour le métier que je fais de libraire. Alors souvent, c'est les lectures que je fais de à peu près tout ce qui peut sortir viennent d'une espèce d'objectivité, pas d'objectivité, comment je dirais, viennent du fait que mes lectures me servent à apprendre qu'est-ce que la bande dessinée, comment la présenter et tout. Évidemment, là-dedans, dans toutes ces sorties-là où qui me demandent du travail, mais bon, je t'avouerai que c'est jamais du travail comme tel, mais c'est de partager un peu les autres. Il y a l'effet lecture, il y a l'émotion lecture qui rentre en ligne de compte à certains moments dans mon cas. Évidemment, les titres, donc, je mentionne, ont un aspect, je l'ai appelé nostalgie. Parce que, non, j'ai pas vécu les sorties entre autres, des bijoux de la Cajetafiore, mais nostalgie de mes premières lectures. Qu'est-ce qui a fait que chaque fois que j'y reviens, il y a l'aspect émotif qui embarque et est-ce que cet aspect nostalgie, émotif, fonctionne encore? Dans certains titres, tu sais, il y a certaines rééditions que j'avais déjà vues passer et je pense à des trucs comme dans mon enfance, comme Ricochet, Michel Vaillant, des trucs qui m'avaient été. Tu sais, Michel Vaillant, Série Noire, j'avais été très émotif. J'étais un kid qui, à un moment donné, s'était laissé prendre au jeu par le récit et j'avais le mouton, là, j'étais au bas. Et à la relecture, ça avait moins bien fonctionné. Tu sais, alors, c'est pas tellement l'époque des sorties, moi, ce que je parle de nostalgie, c'est les lectures qu'on en fait et quand on y revient.
Oui, parce que d'une certaine façon, en fait, la relecture qu'on en fait aujourd'hui, oui, est teintée de la nostalgie du fait qu'on la lisait plus jeune, mais l'expérience de lecture est aussi teintée par la qualité de l'ouvrage, par
Voilà.
le ton de l'ouvrage, par l'humour, par le type de récit et le reste, donc par plein d'éléments qui sont, eux, teintés de notre expérience de lecteur, parce qu'on en lit beaucoup plus ou beaucoup différemment peut-être que ce qu'on en lisait quand on était jeune, pas nécessairement en termes de quantité, mais en termes d'esprit d'analyse et le reste, là.
Voilà. Et en fait, depuis plusieurs années, comme on a pu l'observer, les maisons d'édition rééditent en intégrale souvent de vieilles séries, de vieux titres, mais là, on les agrémente d'appareils documentaires, préfaces, et en nostalgie et envie d'apprendre. Moi, me faire redécouvrir certaines choses en lisant les fameuses intégrales. Je pense au merveilleux plan éditorial qu'a eu Dupuis de faire les intégrales avec ces documentaires-là, en plaçant l'œuvre dans le contexte historique, en plaçant l'auteur face à ce qu'il vivait, ma biographie, et tout ça pas à pas à mesure que les intégrales sortent de différentes séries, là, et même les autres maisons d'édition se sont adaptées et elles aussi ont commencé à faire ce genre d'appareil-là. Alors, là aussi, entre nostalgie et envie d'apprendre, parfois, la nostalgie n'opère pas, mais si c'est bien agrémenté d'un appareil critique et documentaire historique, là, je pense que cette nostalgie se transforme en désir d'apprendre. Alors,
Oui,
cette
puis en
sorte
même temps, ça devient
d'humour.
justificatif aussi, dans la mesure où des fois, on a déjà l'album, mais là, oups, il y a l'édition augmentée avec l'explication, la mise en contexte, et
Voilà.
peut-être qu'on aimerait mieux avoir celle-là dans la bibliothèque plutôt que l'autre qui est tout aussi viable. Donc, d'un point de vue commercial, ça se tient aussi, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le fond, dans l'idée de d'aller plus loin, puis de donner les moyens d'aller plus loin avec un contenu qui est produit par des vulgarisateurs, par des spécialistes, par des gens qui ont accès à ça et pas tomber dans du Wikipédia et dans d'autres trucs. On peut en trouver sur le web, mais il y a un plaisir d'avoir l'expérience qui est quand même dans un même outil, dans un même objet, là.
Ouais, tout à fait. Alors, et c'est parti de là, en fin d'année, souvent, c'est le moment où on envoie ces fameux intégrales, ces fameuses nouvelles versions documentées et tout, parce que c'est un peu plus dispendieux, mais c'est aussi un cadeau à offrir à quelqu'un qui, c'est lui aussi, la nostalgie peut opérer, mais à quelqu'un faire découvrir aussi, je pense. Les éditeurs l'ont compris depuis plusieurs années, et moi, ça m'a, quand, au fur et à mesure que ça avance, ça m'épate parce que je trouve ça intelligent de faire cette chose-là, plutôt de réimprimer l'album tout nu, de sortir une vieille affaire qui fait que, tu sais, je pense que c'est oui, c'est commercial, mais en même temps, je pense que c'est aussi pédagogique.
Oui, parce que l'œuvre est le produit de son époque aussi, puis on peut pas la désarçonner. Dans le fond, une œuvre qui a été créée dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, c'est un produit de cette période-là, donc ça vaut la peine d'aller plus loin, ça vaut la peine de la contextualiser. Et même pour le lecteur moderne qui ne connaît pas l'œuvre, ben, ce contexte-là devient peut-être quelque chose même à lire avant de lire l'album, pour comprendre des éléments qui, aujourd'hui, avec une certaine sensibilité, vont faire réagir à juste titre, mais
Voilà.
qui, ou de comprendre des mécanismes de mise en scène, des approches qui sont ancrées dans la manière de faire de l'époque. Donc, d'un point de vue thématique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue créatif, effectivement, ça apporte, ça bonifie l'expérience de lecture.
Tout à fait. Et surtout, certaines parutions qui, à une certaine époque, paraissaient normales et banales, aujourd'hui font scandale et controverse. Donc, on a tout intérêt à développer cette pédagogie-là, de cette mise en situation et mise en historique, je pense, les albums et les histoires et ces auteurs-là. Alors, je pense que l'aspect commercial, oui, mais je pense que ça aide beaucoup, beaucoup à véhiculer un peu et véhiculer les. Une définition de la BD, il y a des codes de la BD aussi. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à redécouvrir certaines choses que j'ai déjà lues, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à découvrir, et j'ai commencé à m'intéresser à des intégrales, à des trucs que j'avais peut-être lus, mais peut-être moins lus, et à m'intéresser à ces intégrales-là, à ces albums un peu documentaires, accompagnés de documentaires pour découvrir quelque chose qui peut-être m'avait échappé.
Et donc, la table est bien mise. On comprend dans l'esprit de tout ça. Et je pense qu'on a vu apparaître, tu parlais des librairies. Il y a justement beaucoup d'intégrales Tintin, dans le fond, de rééditions de Tintin qui ont été produites ces derniers temps. Et en fait, pour beaucoup dont toi, je pense qu'un des sommets de Hergé, un des sommets de la série Tintin, c'est Les Bijoux de la Castafiore.
Ouais, bon, là, on parle. Là, ce premier album dont j'ai envie de parler est non seulement un truc nostalgique de la série, mais de mes premières lectures. En fait, pour moi, Les Bijoux de la Castafiore, j'ai découvert beaucoup plus tard que c'était un chef-d'œuvre absolu, pour emprunter un terme de certains pseudo-critiques, mais c'est un chef-d'œuvre absolu que j'ai découvert plus tard. Mais pour moi, les Bijoux de la Cassafiore a été le premier album de bande dessinée que j'ai eu entre les mains et je ne savais à peine lire, et qui m'a motivé à apprendre à lire parce que je voulais savoir ce que disait le perroquet. Parce que le perroquet avait un phylactère avec des caractères, et alors ça m'a motivé, et bon, j'ai été un peu déçu, mais quand même, ce premier album que j'ai qui m'est cher, je l'ai relu et relu. Donc, à chaque relecture est une nostalgie de cette première lecture-là. Mais en même temps aussi, à connaître aussi l'œuvre, à connaître un peu la bande dessinée, l'histoire de la BD et de l'auteur, il y a aussi une nostalgie de voir comment faire connaître aussi cet album-là. Et Dieu sait que chez Hergé, Casterman, les éditeurs, Moulinsart, tous les éditeurs et les tenants droits ont tout essayé, ont tout fait. Parfois c'est réussi, parfois ça ne l'est pas et tout, mais et là on assiste à la sortie des Bijoux dans une version qu'on nous dit la version du journal Tintin. On sait que Hergé, vers la fin, quand, avec le journal Tintin, le Tintin Reporter, il préparait toujours deux versions. Une pour le journal et la deuxième à améliorer pour l'album. Et ils ont fait ça pour le Crabe aux pinces d'or avec une version du journal Tintin, ouais, je pense, et la version finale. Finale qui est en album. Donc, ils nous sortent des premières versions. Ces deux albums-là sortent parce qu'ils sont déjà en facsimilé. On se dira qu'il y a une collection chez Casterman où on a les Tintins en facsimilé, en premier album quand ils sont parus. Déjà là, on a les premières versions comparativement aux albums qu'on peut se procurer. Alors, d'où l'intérêt, il y a déjà les Bijoux de la Castafiore, les Bijoux de la Castafiore en facsimilé, et là, on nous dit une version du journal Tintin. À la lecture, au début, il y a le petit documentaire, ce fameux petit documentaire qu'on nous... Et là, je t'avouerai que j'ai un peu été déçu, mais que la personne, le client normal qui, lui, veut apprendre, va peut-être apprendre des choses et tout.
Oui,
Là,
à
c'est...
force, on accumule beaucoup de connaissances aussi, donc ça fait qu'on est des fois plus
Voilà,
difficile
là,
à satisfaire sur le point de l'apprentissage.
sur les bijoux, c'était un challenge et je le comprenais et je trouve l'initiative intéressante, surtout d'y aller avec ce petit documentaire-là, fractionné en petits épisodes sur la façon dont on faisait les albums. On apprend comment faire des albums, mais c'est quand même intéressant parce que, bon, on retrouve le même effet dans des ouvrages sur Hergé. Mais là-dedans, on nous explique rapidement qu'est-ce que les bleus, qu'est-ce que l'ancrage, qu'est-ce que les pales. Et c'est merveilleux. Et pour ce qui est de cette version du journal Tintin, et là, on nous apprend que, oui, bon, c'était minime. Hergé avait changé une porte, Hergé avait mis une couleur. Alors, évidemment, il n'y a pas trop de différence à cette époque-là, dans les derniers albums de Tintin, entre la sortie en magazine, en prépublication, et la sortie en album. Bon, pour les tarés que nous sommes, moi, ça me le prenait tout à fait, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, pour cette sortie-là, je pense que ces albums-là, travaillés de cette façon-là, oui, c'est un coût commercial, mais en même temps, je pense que ça amène au lecteur, au nouveau lecteur ou ancien lecteur qui lui aussi veut retrouver cette nostalgie-là, oui, à l'époque quand je l'ai lu et tout, mais en même temps, y aller avec ces petits documents, ces préfaces qui, je pense, nous aident un peu mieux à s'orienter, à orienter notre nostalgie vers un envie d'apprendre sur la
Oui,
BD.
puis en fait, j'ai presque envie de faire un segue sur une chronique que tu as déjà faite qu'on peut retrouver sur lavieenbd.com. Tu nous parlais justement du retour de l'analyse, des cahiers, des lectures un peu savantes autour de la BD, mais qu'on rend accessible cette vulgarisation-là. Alors, ça peut avoir un effet inverse aussi, où justement, on lit ça, on profite de l'analyse, on se dit, ben, OK, il y en a plein d'analyses comme ça. Je veux dire, la BD, c'est un monde qui est en plein développement, donc pourquoi pas aller et s'en servir pour une porte vers un approfondissement d'autres thématiques ou d'autres éléments, là. C'est
Oui,
tout est
en
dans
fait,
tout.
à voir grandir l'intérêt, et on le constate, là, à voir grandir l'intérêt des gens pour la bande dessinée, plus il y a de gens qui s'en intéressent, et il y aura toujours dans ces gens-là une quantité qui voudra pousser un peu plus loin leur analyse. Tu sais, des clients, un des clients qui, bon, achète beaucoup de BD, on en parle souvent, vient souvent, et un jour, il me pose la question, qu'est-ce que je fais de toutes mes connaissances? Voilà. Et c'est là que tu franchis le pas, alors tu te renseignes sur des choses et tout, comme à donner des conseils sur, à donner des conseils sur, sur de la BD pour des gens. Dis, oui, ah, c'est drôle comment ça. Et là, tu sens la porte qui s'ouvre sur elle voudrait comprendre comment ça se passe. Et là, il y a toujours un intérêt à aller chercher comment lire la BD de Benoît Peters ou d'aller, d'intégrer tout. Il y aura toujours une partie, mais effectivement, et cette partie-là est en mouvance parce que elle va chercher de dans elle va chercher historiquement dans des œuvres qui ont marqué tout, mais aussi vont intégrer les nouveaux auteurs, les nouvelles autrices qui elles aussi explorent ces codes-là et explorent aussi cette façon de raconter qui fait en sorte que elles aussi s'installent dans l'histoire, dans notre histoire récente de la bande dessinée.
Et Marco Duchesne, j'ouvre une deuxième porte un peu nostalgique et apprentissage avec le retour du capitaine Nemo chez
Ah oui,
Cités Obscures.
là, on assiste à ma nostalgie d'une série que j'ai adorée. Les débuts de ma carrière comme libraire en BD correspondent un peu aux premières sorties des Cités Obscures avec les murailles de Samaris, avec, je me rappelle plus des autres, la tour et tout, des auteurs de Benoît Peters et François Skuyten, a été une série et intelligente. C'était une série pour adultes. Bien souvent, on explorait le noir et blanc. Bien souvent, on commençait à explorer un peu la manière de raconter une histoire, non, différemment qu'en une succession d'images, un récit qui donne l'impression de mouvement, là. Et ils ont commencé à travailler là-dessus au point que chaque album était une espèce de concept et très attendu et tout. Alors, et à un moment donné, la série était en pause. Et quand je parle en pause, c'est une dizaine d'années. Je pense que le dernier remonte à assez longtemps. Alors, voir surgir ce titre-là, là, c'est avec beaucoup de nostalgie que je m'installe. Et tu vois, ça aussi, là, c'est du moment où j'ai vécu chaque sortie. Mais là, je ne m'attendais pas à cette sortie-là. Donc, à la sortie. Et avec un titre comme Le retour du Capitaine Nemo, déjà là, ça fait référence aussi à moi ou à d'autres, la nostalgie de lecture de Jules Verne. Et moi, Jules Verne, L'île mystérieuse est à peu près le seul livre que je connais, mais je l'ai lu en BD. Une adaptation hachette des années 70 avec c'est italien.
Oui, en fait,
Je me
avec
rappelle, c'était.
un gros truc rouge. En fait, il avait à la bibliothèque à l'école primaire. C'est dans mes
Ouais, c'est
premiers flashs. Moi, ça m'a amené vers Jules Verne aussi en cours de route, là.
Ça, moi aussi, mais tu sais, à lire L'île mystérieuse. Alors, le retour du capitaine Nemo, ça a évoqué ça pour moi. Alors, tu vois, et là, quand l'album commence, et encore une fois, Peters et Skuyten développent un concept, et ce concept-là est vraiment intelligent, c'est-à-dire que pendant un bon bout de l'album, ça va être une double page. À gauche, il y aura une illustration de Nemo. En haut, il y aura une localisation de où il est rendu parce qu'il est prisonnier à bord d'un Nautilus qui a été transformé en Nautipulpe avec des. Et là, il se déplace indépendamment, donc Nemo. Et Nemo commence à se réveiller tout de suite après l'île mystérieuse. Et là, au fur et à mesure qu'on lit, Nemo se réveille. Devient plus conscient et il commence à raconter sa autobiographie, d'où il vient, le premier Nautilus, le bain milieu sous les mers, l'île mystérieuse. Et chaque page a une location différente et cette location, bien évidemment, se retrouve dans le monde des cités obscures. On reconnaît certaines villes. Et là, plus ça avance, plus cette transformation de Nemo qui commence à s'organiser, sa pensée s'organise, sa biographie est de plus en plus précise. Et lui se rase et commence à avoir l'allure de Jules Verne. Et là, on sent qu'il arrive au bout et tu sais, encore une fois, c'est magnifique. Et là, on a un peu de BD. Et la toute fin, il y a ce petit docu-fiction sur comment s'est écrit L'île mystérieuse. Benoît Peters, il va de toutes ses références, avec évidemment les illustrations de Benoît Skyta, mais il va de toutes ses références parce que, effectivement, son personnage, à la fin, Nemo s'installe et commence à écrire, mais on sent que c'est une des premières phrases de Jules Verne. Et là, Peters, il va de ce document. Alors, cette nostalgie-là de cette série-là qui m'avait beaucoup et de Nemo, de Jules Verne et de Les Cités obscures, et prend son apogée avec ce docu-fiction qui s'est transformé en envie d'apprendre. C'est vraiment un beau morceau.
Oui, puis en fait, je veux dire, il y a tellement eu aussi beaucoup d'adaptations autour du travail de Jules Verne. Hein.
Ah
Des fois,
oui.
c'est intéressant d'avoir des récits comme ça qui peuvent un peu nous servir de porte d'entrée vers soit la planète BD de Jules Verne ou soit les romans aussi, puis la multitude d'adaptations. Je veux dire, je pense que quand on parle d'un auteur qui a forgé l'imaginaire, Verne, c'est un bon exemple, c'est une bonne
Tout à
matière
fait.
première aussi, là.
Ah oui.
Un livre, un univers que je ne connais pas du tout, et là, on va, Marco, du côté de chez Gallimard, L'illusion magnifique.
En fait, c'est tout récent. C'est Alexandre Tota, qui est un Italien que moi je connais. J'ai lu certaines de ses choses, de ses œuvres, puis que j'avais bien aimé. Mais ici, il va traiter d'un sujet. Et là, la nostalgie que j'éprouve, c'est l'époque dans laquelle il met son personnage. Alors, Roberta Miller, qui ne s'appelle pas Roberta Miller, qui va s'appeler Roberta Miller parce qu'elle va arriver à New York, fraîchement sortie de son Kansas. Elle va arriver à New York dans les débuts des années 20, 30, où là, le tumulte de la politique, il y a le parti communiste qui manifeste dans les rues, les ouvriers sortent et se font tabasser par la police. Et là, elle débarque parce que, elle veut recommencer à neuf. Pourquoi? Dans son Kansas natal, sa famille est pauvre et extra pauvre, une ferme qui ne produit plus rien, un âne qui est mort et qui a son importance. Elle se développe une passion pour les pulp magazines. Elle veut écrire des pulp magazines. Donc, elle débarque à New York et elle se fait tout voler. Elle va se faire ramasser par une des manifestantes du Parti communiste qui distribue des tracts. Elle va l'amener chez elle, l'héberger. Elle va même lui donner un travail au sein de ce groupuscule-là qui donnait. Mais elle veut écrire des pulps. Sauf qu'elle va rencontrer un dessinateur, un artiste pourri qui perce pas, mais qui fait de la bande dessinée et elle va écrire des scénarios avec lui et rentrer dans le monde du comics parce qu'elle a rêvé à des super-héros. Et là, soudainement, on voit tout le background des premières, du balbutiement des super-héros, mais on voit aussi comment ça fonctionnait dans les bureaux, dans les rédactions, dans les syndicats qui achetaient des
Oui.
trucs. On voit un peu, ça m'a beaucoup rappelé L'itinéraire d'un rêveur de Will Eisner qui raconte sa autobiographie en changeant les noms, mais on reconnaît Jack Kirby, on connaît toutes les Joe Simons, on connaît
Oui,
toutes
puis il y a un
les.
plaisir à ces
Oui.
récits-là qui nous amènent en coulisses, et à la fois en coulisses d'un système qu'on connaît, qu'on imagine, mais qu'on peut approfondir, mais dans les coulisses d'une époque aussi, encore là, parce que la production, la manière de faire, les impératifs technologiques n'étaient pas les mêmes, et nécessairement, ben, ces impératifs-là influençaient aussi la nature de la création qu'on allait pouvoir en tirer.
Tout à fait. Et on voit, elle se débat avec ça. Elle se fait avoir par le dessinateur, mais prend les choses en main, amène le dessinateur devant espèce d'éditeur gangster, parce que le dessinateur connaît des gangsters et tout. Puis on lui offre de l'argent pour. Et là, on découvre que c'était payé à la page. Et là, ces pages-là, le deadline était la fin de la semaine. Alors, peu importe. Le dessinateur dessinait et elle encrait et une autre personne faisait les couleurs et tout. Tu sais, on voit comment fonctionnait à petite échelle, mais on voit comment à grande échelle fonctionnait avec Will Eisner quand il raconte ça. Mais elle le raconte à petite échelle, tranquillement, parce qu'évidemment, c'est un tome 1, on va voir un peu à évoluer. Mais et là, et ce que je décris comme décor, comme ça a très peu d'importance. Moi, c'est là que la nostalgie a opéré parce que je connais un peu l'historique de tout ça. Et ce qu'il faut suivre, c'est ce personnage, ce petit bout de bonne femme qui doit s'appeler. Quand elle s'appelle Roberta Miller, qui a changé de nom pour recommencer à zéro, mais quand elle écrit, il faut qu'elle s'appelle Bob Smoke. Parce qu'à cette époque-là, une femme ne pouvait pas écrire de. Elle n'était pas intéressante, elle ne pouvait pas faire. Et Dieu sait que, moi, dans mes recherches, on découvre qu'il y a des femmes ont fait du comic strip dès le départ, des femmes ont été cartoonistes. Des femmes ont été impliquées dans les studios. Moi, Marvel, quand on lit les biographies, il y a une femme qui a soutenu cet atelier-là pendant des années à faire une job au-delà de la secrétaire. T'sais, elle a travaillé très fort. Alors, t'sais, et à cette époque-là, effectivement, si tu dessinais, tu n'étais pas un auteur, il fallait que tu prennes. Et là, elle s'appelle, et notre personnage, Roberta Miller, s'appelle Bob Smoke, choisi par. Et là, il explique pourquoi c'est rigolo, là. Et tout ça. Et donc, elle va se faire un chemin tout à travers cette industrie naissante du super-héros. Parce que le comics existait, marchait bien, mais à un moment donné, quand ça a stagné, et c'est là qu'on a vu apparaître les super-héros. Et là, on voit comment Superman, lit le premier numéro de Superman et comprend comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'elle suggère son super dog. Elle a trois super-héros. Elle a une espèce de méchant, mais un vilain. Elle a un super dog et elle a une espèce d'Amazone qui ressemble plus à une maîtresse sadomaso. Mais là, moi, j'y voyais un peu les premiers Wonder Woman où l'auteur était une espèce de psychiatre qui focusait sur les attachés là, à les nœuds et tout ça. Bref, tout ça pour dire que ce premier tome donne une histoire vraiment intéressante avec des personnages colorés et des situations à la fois cocasses, mais en même temps qui font avancer une histoire qu'on a hâte au dénouement. Mais en même temps, il y a tout le background où on a envie d'apprendre quelque chose.
Et tu nous as parlé donc de l'illusion magnifique, donc le premier livre qui est disponible, Le retour du capitaine Nemo et Les bijoux de la Castafiore, la version du journal de Tintin. Peut-être Marco Duchesne, avant de se laisser, est-ce que en vrac, là, il y a une ou deux mentions supplémentaires que tu aimerais faire?
Oui, la semaine passée, on a eu en magasin une intégrale des éditos de Gottlieb. Gottlieb, quand il a créé le magazine Flux glacial, c'est lui qui s'est mis à faire les éditoriaux. Et laisse-moi dire que c'est très drôle. C'est vrai, il y a des situations un peu plus françaises, il y a des situations un peu plus. Mais le ton de Gottlieb, l'humour absurde de Gottlieb et cette façon de raconter ces trucs, c'est vraiment à consulter. Et là, encore une fois, la version qu'on a est agrémentée de documents, de notes qui situent. Alors, peut-être que c'est un peu trop français, mais on va vous l'expliquer pourquoi et pourquoi c'est drôle. Alors, je pense que ça, pour les amateurs, ça a déjà existé en format de poche, mais là, on a un bel album, il est bien illustré, on a une belle préface. Je pense que les amateurs de Gottlieb, rubrique à braque, les trucs en vrac et tout ça, je pense que ça vaut la peine de jeter un œil. Il est sorti aussi aujourd'hui, j'y ai touché, je l'ai pris dans mes bras. C'est la troisième tome des intégrales des Génies des Alpages. Encore une fois, le Génie des Alpages, cette magnifique série que à peu près rien que moi qui aime. A décidé de faire les fameuses intégrales. On en est les deux premières. Et encore là, je l'ai consulté, j'ai regardé le petit document de préface qui nous situe l'œuvre au moment où ces trois tomes sortent, où en est Fmur, l'auteur, dans sa carrière et tout. Encore une fois, on nous situe le truc. Alors, une fois passé, on peut se laisser aller dans ces albums et redécouvrir, moi pour redécouvrir les albums, mais pour peut-être un lecteur qui veut quelque chose de challenge, le Génie des Alpages, je pense que dans l'humour absurde, c'est un des musts.
Alors, ça fait des belles suggestions. J'ai l'impression presque à Noël en rattrapage aussi.
Oui, c'est ça.
Rendu là.
On dirait une liste de cadeaux.
Marco Duchesne, merci beaucoup.
Plaisir.
Alors, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres belles entrevues. Éléonore Goldberg va être avec nous. Philippe Lemieux va être avec nous. Alors, c'est un rendez-vous. Mais d'ici là, c'était Raymond Poirier au micro et passez une excellente semaine.